On m'entend là ? Donc, considéré comme haïssable ou hors la loi, le jeu opère un retour en force dans l'écriture et quel que soit le champ considéré. Autobiographie, autofiction, roman, mémoire, journaux intimes, confession, récits de voyage, prière, vision, récits de vie, lettres, exercices spirituels, poèmes, chroniques, essais, notes, carnets intimes, cas cliniques, etc. Autant de lieux où le jeu se déploie et s'explique. En parallèle, dans la vidéosphère, du reportage au rapportage, des micro-trottoirs aux reality shows, partout s'exhibe le jeu. Et il en est de même sur la toile, hein, du site web au blog, le jeu surfe à qui mieux mieux, brouillant toutes les frontières. C'est donc un phénomène culturel majeur dans une société qui prône l'égalité et l'unicité de tous. Donc la figuration de soi peut être perçue comme un progrès de la démocratisation. Est-ce que c'est un jeu, un bricolage du commun des mortels pour construire, consolider une identité ou une ipséité, une différence qui est altérée par la standardisation des discours? Dans le champ plus restreint de la littérature de jeunesse, même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une offre pléthorique d'œuvres où le jeu s'exhibe. Je me permets de faire une présentation de cet ouvrage donc, qui est coordonné par Marie-Hélène Rock sur les écritures en jeu, dans la mesure où, à la fin de cet ouvrage, elle présente une liste de 100 ouvrages lus qui sont à destination de la jeunesse. Donc, ouvrages où le jeu est présent. Je n'en présenterai pas tant, hein, je vais cibler mon analyse sur quelques textes. Alors, parmi tous ces textes à destination de la jeunesse, se distinguent ceux où le jeu est un enfant ou un adolescent, ce qui est censé faciliter les processus d'identification entre le jeune lecteur et le narrateur. Par là même, ils sont également censés faciliter la réflexion sur les grandes questions humaines, le montre Marie-Hélène Rock, le racisme, les problèmes existentiels, etc. Afin de permettre à l'enfant de sortir de son propre jeu pour entrer dans le jeu de l'autre et s'ouvrir à l'altérité sans prendre le risque d'y perdre son intégrité. Comme l'a dit Daniel tout à l'heure, je vais cibler mon analyse sur un tout petit point, c'est l'ancrage du jeu qui pose des problèmes de réception, parce qu'à partir de là, je montrerai comment les trucages d'écriture bouleversent les enjeux identitaires et quels problèmes didactiques cela nous pose. Donc, soi-disant, il est difficile d'établir un corpus des écritures de soi qui effectue un brouillage des frontières entre les genres. Et cela s'accompagne d'une ambiguïté sur le statut du jeu. Alors, j'ai constaté beaucoup de textes et on a souvent une contradiction entre ce qui se dit à l'intérieur du livre et parfois dans la préface ou dans le titre original en anglais, par exemple, le titre en français, où ça va être présenté comme une autobiographie ou comme des mémoires, etc. Donc, il y a un statut incertain du texte. Si l'on s'en tient à la définition de Philippe le Jeune, donc de l'autobiographie, on peut considérer que l'autobiographie est référentielle puisqu'elle affirme une identité entre auteur, narrateur, personnage, et elle est contractuelle parce qu'elle atteste dans le texte ou dans les marges du texte cette identité. Mais de fait, que le jeu soit réel, c'est-à-dire attesté par l'état civil ou fictif, il n'a de référence qu'à l'intérieur d'un discours. Et on peut toujours mettre en doute la fiabilité du discours d'autorité, d'où qu'il vienne. Bon, je fais une petite allusion pour montrer les enjeux dans la sphère politique. Lorsque Colin Powell nous dit « Je vous montrerai les preuves qu'il y a des armes de destruction massive en Irak », c'est son discours d'autorité qui nous dit ce que je dis est vrai, mais rien ne garantit la fiabilité de son propre discours. Bien, dans les textes que l'on a ici pour la littérature de jeunesse, c'est la même chose. Même si l'auteur dit « je vous garantis que ce que je dis est vrai », rien ne me garantit la fiabilité de son discours. À cet égard, je voudrais signaler que on a par exemple le livre de Micha de Fonseca qui raconte dans « Survivre avec les loups » comment elle a survécu après plus de 3000 kilomètres de périple et comment elle a vécu avec les loups. Et son manuscrit a été refusé parce que certains refusaient de considérer que c'était une autobiographie. D'ailleurs, si c'était un roman, ça serait bien, mais voilà. Donc il y a ce problème-là du jeu. Alors, ce que je vais essayer de montrer, c'est quels sont les trucages qui vont faire flotter le jeu. Dans un cas très simple, si je prends le cas d'un texte qui se présente comme un roman, je vais prendre l'exemple de Thomas Aigle Bleu. Voilà, il n'y a pas de nom d'auteur sur la couverture, et donc c'est vraiment à destination des petits. Donc ici, le narrateur est un Indien qui a appris à narrer ses récits avec les mots de l'homme blanc. Il raconte son enfance au sein de la tribu, puis l'arrivée de l'homme blanc qui le sépare des siens, et enfin le retour dans sa tribu 6 ans plus tard. Et son nom raconte donc sa vie, puisque c'est Thomas Aigle Bleu, rebaptisé Thomas. Et donc, il a, à la fin, cette double identité. Alors, l'éditeur affirme que Thomas Aigle Bleu est un personnage de fiction, mais que le récit dépeint des événements parfaitement plausibles dans la vie d'un jeune Sioux des années 1880. Il ajoute qu'aucun cahier semblable n'a été retrouvé, mais que rien n'interdit de penser qu'il en a existé à l'époque. Donc, ça se présente sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'il y a un double langage. Le jeune Indien Sioux écrit ou raconte sa vie à l'aide de pictogrammes. Et en même temps, on lui donne des cahiers avec des lignes et avec l'écriture anglaise. Il raconte sa vie dans les termes de l'homme blanc. Enfin, c'est pas tout à fait dans les termes de l'homme blanc parce que il dit, par exemple, « Je suis né à la lune où les chevaux perdent leurs poils rudes ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes références culturelles pour donner sa date de naissance. Voilà. Donc ici, c'est simple. Il y a une création, une invention d'un jeu narrateur et protagoniste par montage de documents. Les auteurs se sont inspirés de dessins qui ont été exécutés sur des cahiers par les Indiens des plaines à la fin du 19e siècle. Et on peut voir de tels documents d'archives dans les musées et les collections privées. Donc, le texte et les images se fondent sur ces documents, des lettres, des narrations qui appartiennent à des collections, ainsi que sur des journaux intimes, des photographies, des dessins qui sont conservés et que l'on peut retrouver. Les auteurs ont reçu l'aide d'un conseiller culturel, un Indien Lakota, qui connaît parfaitement les traditions et les coutumes de la tribu dont il s'agit. Par ailleurs, l'école indienne de Carlisle dont parle Thomas Aigle Bleu dans la fiction a authentiquement existé entre 1879 et 1918. Elle avait pour vocation d'enseigner à des jeunes Indiens les savoirs et les techniques des colons de l'Est américain. Voilà. Donc ici, c'est simple. Tout est fabriqué à partir de documents authentiques. Le trucage consiste à donner une unité à un ensemble épars de documents d'archives. Donc à construire je dirais une identité, quelque chose d'unique à partir du pluriel. Donc la situation est assez simple. Autre cas où ça va être un petit peu plus compliqué, je prends l'exemple de Léon Walter Tillage, donc qui s'intitule Léon. Donc il décline son identité au début du texte et affirme qu'il est l'auteur, le narrateur et le protagoniste de l'histoire. Je m'appelle Léon Walter Tillage. Je suis né le 19 janvier 1936. J'ai 8 frères et sœurs et je suis le deuxième. Dans notre enfance, nous habitions près de Fuquay, une petite ville régie par les lois Jim Crow, aux abords de Raleigh, la Caroline du Nord. Donc, dans cet incipit, le narrateur donne les repères temporels, géographiques, et en même temps, il fait référence aux lois Jim Crow, ce qui peut intriguer le lecteur, que viennent faire ces références, ces informations dans l'établissement d'un état civil. Cette attestation d'identité est confirmée par le témoignage de l'illustratrice, donc qui appartient donc à l'appareillage éditorial. Donc l'illustratrice dit comment va s'effectuer le livre. Et c'est là que l'on va voir qu'il y a un montage. En fait, tout part de l'école. Et elle raconte. Il y a plus de 4 ans, quand ma fille cadette avait 12 ans, elle a entendu Léon Tillage parler devant une assemblée d'élèves de l'école du parc de Baltimore, comme il le faisait chaque année. Elle est rentrée à la maison et m'a raconté. Donc on a d'abord un témoignage oral, et la petite fille sert de médiateur entre le discours oral de Léon et sa maman. Donc le témoignage est oral, informel, et on n'a rien sur le contenu, si ce n'est l'effet sur l'auditrice. Je cite, « Léon est né dans le Sud, il nous a raconté son enfance, c'était horrible. » Dans le second temps, la fillette et la mère discutent de ce que Léon avait dit. Là encore, on ne dispose d'aucune information précise sur le contenu. Par contre, la mère rend compte de l'effet de cette discussion sur elle-même. Donc elle dit « Il me semblait que le monde entier devait entendre la voix de Léon Tillage. » Elle prend rendez-vous avec Léon. Elle lui dit combien l'histoire de Léon avait bouleversé sa fille et elle-même, et elle lui propose de raconter à un public plus large son histoire sous la forme d'un livre. Je lui ai demandé s'il serait d'accord pour que je l'aide, et il a accepté. Et donc, on va avoir le passage entre le discours oral et le livre, et on va essayer de voir en quoi consiste l'aide apportée par Suzanne. Alors, tout d'abord, comment ça se passe? Elle prend rendez-vous avec Léon et elle enregistre l'histoire. Donc c'est le premier état du texte, mais ce premier état va être modifié parce qu'il a été retranscrit. Donc ce qu'il a dit a été retranscrit à partir de ce premier enregistrement et de deux autres enregistrements qui ont été réalisés par la suite pour préciser certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des entretiens qui ont été faits. Ensuite, Suzanne parle de retranscription et elle se justifie de toute déformation par rapport aux enregistrements. Sa volonté, c'est d'être au plus près de la parole de Léon. Elle dit « Nous avons vraiment essayé d'être fidèles à la voix de Léon, respectueux de ses mots. Le travail éditorial a été fait avec lui et avec son approbation. Nous avons, autant que faire se peut, limité les changements nécessaires au passage de l'oral à l'écrit. » Et on constate ici le passage du « je » au « nous » éditorial. C'est-à-dire que le discours, là, déjà, n'appartient plus tout à fait à Léon. Alors, quelles sont les transformations? Pourquoi sont-elles nécessaires? Voilà, rien n'est dit là-dessus. Bon, par ailleurs, Suzanne est illustratrice et elle va donc vouloir illustrer le texte. Bon, pourquoi, alors, comment fait-elle? Elle dit « J'ai lu énormément de romans et de livres documentaires sur le Sud des années 30, 40 et 50. » Et on le voit, elle met sur le même plan et les romans et les textes documentaires. Donc, il y a tout un travail de recherche, d'enquête ici, simplement pour l'illustration. Ensuite, Léon et moi, nous avons fait un pèlerinage jusqu'à sa vieille maison de Caroline du Nord. J'ai vu tous les endroits dont il parle dans le livre. Beaucoup d'immeubles n'existent plus, mais j'ai foulé le sol où il s'élevait. La maison sur les terres de M. Johnson a disparu, mais Léon a pu me montrer ses fondations et des traces de la cheminée existent toujours. Ils m'ont montré où étaient les bois de leur enfance. J'ai été accueillie chaleureusement par toute la famille. Je les ai écoutés raconter leurs souvenirs. J'ai regardé les photos de leurs albums, etc. Et là, on voit qu'en fait, l'histoire de Léon devient sa propre histoire, la propre histoire de Suzanne qui rentre en pèlerinage et qui, en même temps, vit, partage ce pèlerinage donc avec Léon. Alors, d'après ce que dit Suzanne, elle a essayé d'effacer dans le corps du texte toutes les traces d'elle-même. Alors effectivement, quand on lit le texte, on ne voit pas, comme dans un entretien, on ne voit pas les questions, on ne voit pas tout l'étayage qui est là. Néanmoins, dans le paratexte, elle dit « Léon a vécu tous les grands bouleversements de la vie des Afro-Américains. Lui-même, en participant aux marches, a contribué à ces changements. » Et en fait, on voit ici que l'histoire de Léon devient aussi la propre histoire de Suzanne et qu'elle a choisi dans le discours de Léon, ce qui pouvait être emblématique de la vie d'un noir dans les années 30, 40, 50. On peut parler ici d'une sorte de création d'un entrejeu de l'écriture entre Léon et Suzanne. Autre trucage donc sur un troisième exemple. Alors, ce serait encore un travail d'édition, mais dans un autre cas, ça serait un jeu qui serait qui travaillerait sur la censure. Alors, j'ai pris l'exemple de Geronimo, et on voit que dans l'édition française, c'est présenté comme des mémoires, mais dans le texte anglais, on a « his own story », c'est-à-dire que ce n'est pas présenté comme comme des mémoires. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, l'introduction, on va voir que il y a plusieurs étapes, hein, mais assez compliquées pour rétablir l'histoire. Celui qui a établi le texte nous dit que en fait il l'a repris à un inspecteur général qui avait déjà lui-même établi le texte. Donc il y a eu un premier établissement par un certain Barrett et un deuxième établissement par un certain Turner, Frédéric Turner. Donc deux établissements du texte. Alors on va avoir comment ça s'est présenté. Geronimo raconte sa vie librement en disant seulement ce qui lui semble important. La seconde personne qui a établi le texte, Turner, fait remarquer qu'un remaniement des matériaux aurait pu rendre la narration plus cohérente, mais elle aurait perdu le style original indien. Il affirme qu'il a résisté à la tentation de laisser le texte tel que Barrett l'avait établi pour une première fois, mais il avoue avoir supprimé des matériaux qu'il juge manifestement superflus. C'est-à-dire qu'il a touché le texte, hein, il a enlevé des choses, et il dit, par contre, qu'il dit Geronimo n'a pas tout dit à Barrett, il y a des lacunes, des omissions dans le récit, et par conséquent, à chaque fois que cela a été possible, il a fourni des éléments importants dans le texte. Donc on voit déjà au niveau du deuxième établissement du texte, hein, les transformations qui ont eu lieu. Voilà. Alors je regarde maintenant le premier établissement du texte, Barrett. Le but de Barrett, qui était donc un inspecteur général de l'éducation donc dans l'Oklahoma, avait pour volonté de donner le récit authentique de la vie des Indiens Apaches et de respecter envers Geronimo, qui était quand même prisonnier de guerre, 20 ans de prison, hein, il est mort à plus de 90 ans. Il a voulu avoir la courtoisie, due à n'importe quel captif, d'exposer les raisons qui l'ont poussé à s'opposer à notre civilisation et à nos lois. Voilà, c'était donc un projet politique au départ. Donc il rencontre, cet inspecteur rencontre Geronimo et il lui demande la permission de publier des propos tenus par Geronimo. Et celui-ci refuse et il dit non, je veux raconter toute l'histoire de ma vie. Voilà. Donc Geronimo veut garder la maîtrise de la parole. Mais comme il est prisonnier, il est obligé de demander la permission au chef responsable de la garnison, qui refuse. Donc Barrett écrit au président Roosevelt pour lui dire qu'il y a un prisonnier de guerre depuis 20 ans à qui l'on n'a jamais permis de raconter sa version des faits. Donc il demande au président d'accorder la permission à Geronimo de raconter sa vie dans le but d'être publié, donc dans ses propres termes, et de lui donner la garantie que la publication de son histoire ne nuirait en rien aux Apaches prisonniers de guerre. L'autorisation est donc accordée. À partir de ce moment-là, Barrett demande à un autre Indien d'être interprète, de passer de l'anglais à la langue apache. Et donc va commencer le véritable travail donc de compilation. Alors Geronimo refuse de parler en présence d'un sténographe et il refuse d'être interrompu pendant qu'il raconte. Il vient chaque jour, il dit ce qu'il a à dire et il s'en va. Il savait chaque jour précisément ce qu'il voulait dire. Il refuse d'être questionné sur les détails. Par contre, lorsque le traducteur redit en apache à Geronimo ce que finalement Barrette a noté de sa vie, là il accepte de répondre aux questions et d'ajouter des informations. Quand le manuscrit est achevé, il est soumis au commandant de la cavalerie dans l'Oklahoma pour obtenir des renseignements sur les points que Geronimo avait refusé d'éclaircir. Et Barrette insère ces informations dans le texte de Geronimo, sans lui demander son accord. Donc c'est dans le manuscrit de Geronimo. Et quand il a la totalité du manuscrit, il le soumet au président Roosevelt. Le président Roosevelt lui donne cette recommandation. Ce manuscrit est très intéressant, mais je vous conseille de décliner toute responsabilité à chaque fois que la réputation d'un individu est mise en cause. Et c'est ce qu'a fait Barrette. Alors, je donne simplement un exemple. Geronimo dit « Maintenant, je sais que ce qu'il a dit n'est pas vrai et je suis persuadé qu'il a bien donné l'ordre de me mettre en prison ou de me tuer si je résistais. » Et donc Barrette ajoute en note « Ce sont les mots exacts de Geronimo et j'en décline toute responsabilité. » Donc on a ça continuellement dans le texte. Ensuite, le manuscrit, selon les termes de Barrette, de l'autobiographie de Geronimo, ainsi modifié, est transmis au ministère de la guerre. Et le ministère de la guerre dresse un mémorandum disant son point de vue par rapport à cette autobiographie. Il affirme que ce document, tout entier ou en partie, ne devrait pas recevoir l'adhésion du ministère de la guerre. Alors il donne toutes les raisons pour lesquelles. Donc Barrette publie le mémorandum afin que toutes les objections soient connues du public, et il envoie ensuite le texte au président, et il conclut en disant que cet ouvrage est non conventionnel parce qu'il a laissé Geronimo raconter à sa manière, donc le fameux style indien. Et le texte de Geronimo est donc édité sous cette forme-là, avec une dédicace de Geronimo qui est adressée à Theodore Roosevelt, qui a permis donc la publication de cet ouvrage. Alors là, on voit que c'est une autre forme de trucage, du jeu, dans la mesure où il est soumis à censure, autorisation, déformation, etc., dans le texte même du texte, sans compter le fait qu'on passe d'une langue apache à l'anglais, etc. Oui, merci. Alors, à partir du moment où le jeu qui parle dans ces textes-là est flou, c'est-à-dire qu'il y a trucage ici, on peut dire que l'origine du texte se trouble, et on peut se demander comment l'édification recherchée dans la littérature jeunesse est possible malgré tout. Alors, je voudrais essayer de réfléchir à ce problème-là à partir d'autres ensemble, de montrer que dans ces récits-là, il y a ce travail d'identification au jeu textuel malgré ces trucages, et peut-être même que les trucages favorisent cette identification en jeu. Pour s'identifier, il faut se reconnaître, trouver des ponts, des liaisons entre l'expérience racontée et sa propre expérience. Alors, il ne s'agit pas d'une assimilation, je suis comme celui qui parle, il me semble pas du tout, mais c'est une sorte d'entrée en résonance, une reconnaissance de soi grâce à l'autre. Ça lui permet de questionner ses propres angoisses, sa propre manière de se situer dans la vie. Alors, je voudrais essayer de montrer comment écrire, c'est toujours tricher un peu, beaucoup, plus ou moins. Alors, je vais essayer de prendre l'un des textes les plus authentiques parmi... le choix est toujours contestable. J'ai pris Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous. Donc, c'est un ouvrage déjà un petit peu ancien. Donc, c'est l'histoire d'une anorexique, une petite qui est anorexique à l'âge de 13 ans. Elle est enfermée pendant 2 ans dans ce qu'elle appelle le pavillon des enfants fous, donc en hôpital psychiatrique. Et 2 ans après, à 15 ans, elle raconte son internement. Alors, il y a donc une distance temporelle qui est très courte entre les deux. Et donc c'est une voix d'adolescente authentique, en quelque sorte, qui se fait entendre. Et c'est un témoignage très particulier de la relation entre adulte et adolescent du point de vue de l'adolescent. Alors, dans le paratexte, parce qu'il y a toujours un paratexte, l'éditeur dit, Valérie Valère a pris conscience des raisons profondes qui l'ont amenée au comportement suicidaire qu'est l'anorexie, et que son récit est avant tout l'histoire d'une guérison. Et je voudrais dire que, en fait, c'est comme si tout se passait selon le schéma narratif traditionnel, et que l'on adapte énormément dans la littérature jeunesse, dans la mesure où on est aussi conditionné par la loi de 49, c'est-à-dire que on ne doit pas désespérer la jeunesse. Donc en gros, le schéma que l'on va avoir dans les récits pour la littérature jeunesse, c'est bonheur, bonheur, catastrophe, et puis finalement, re-bonheur, plus ou moins. Voilà. Donc là, Valérie est malade, elle écrit, vertu cathartique de l'écriture, et ça va bien. Je ne le crois pas, enfin, en tout cas, ce n'est pas la réception que j'en ai en lisant ce texte-là. Alors, ça se présente sous deux strates, c'est-à-dire la première écriture. Alors, on peut constater qu'il n'y a pas de date, hein, ce n'est pas un journal, il n'y a pas de date. On n'a pas l'impression qu'il y a une progression dans l'histoire, mais c'est toujours le même ressassement. Les adultes sont horribles, ils disent n'importe quoi, ils sont fous, c'est eux qui devraient être enfermés, etc., etc. Et il y a une deuxième strate, où que l'on voit en italique, et elle commente ce qu'elle écrit en disant « je voudrais pas des mots propres, je voudrais pas que ce soit de la littérature, je voudrais… » etc. Et en fait, elle est, d'après ce qu'il me semble, elle est toujours dans l'expérience de ce qu'elle appelle la folie. Elle écrit « quand on est dans la peau d'un fou, on n'exprime pas la colère avec des phrases logiques, raisonnables et des mots de bonne compagnie. » Voilà, aucun optimisme dans ces lignes-là, aucune issue. Alors, je pense que c'est justement parce qu'il n'y a aucune trace d'optimisme que les adolescentes s'y retrouvent, en quelque sorte, qu'elles trouvent leurs propres repères et qu'elles reconnaissent leurs propres souffrances et sont capables de leur donner un nom et de trouver elles-mêmes une position par rapport à ça. Les adultes là-dedans sont totalement discrédités et ils sont tous, à des degrés divers, fous. Et il me semble que là, en tout cas chez les anorexiques, c'est un discours dans lequel elles peuvent se reconnaître. Voilà. Et la relation à l'adulte est forcément mortifère. Il n'y a pas un adulte pour acheter l'autre. Il n'y a aucun juste. Donc il y a plusieurs passages où on a ce discours-là. Donc c'est dans la littérature jeunesse, donc on voit ces problèmes qui sont abordés, et j'ai envie de dire il y a une sorte de surenchère dans l'offre des problèmes. Alors on parle de viol, on parle d'inceste, parents divorcés, enfin voilà, hein, j'ai envie de dire comme si la littérature de jeunesse avait vocation un petit peu à parler de tous ces problèmes là voire toutes les calamités adultes. Alors, dans certains cas, je pense qu'ils tombent juste, qu'ils trouvent le bon ton, en quelque sorte, et qu'ils peuvent permettre aux enfants d'avancer. Mais dans d'autres cas, je pense qu'il y a des problèmes. Alors, je voudrais faire une comparaison entre deux ouvrages du même auteur. Alors, c'est Amadou Kourouma. Celui-là, donc, Allah n'est pas obligé, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens, donc qui a un grand succès auprès des lycéens. Et il y a un autre ouvrage de Amadou Kourouma, donc là, destiné à partir de 10 ans, et qui est censé faire connaître aussi des problèmes particuliers à la société africaine, entre autres, la circoncision des garçons et l'excision des petites filles. Alors, autant, me semble-t-il, où le texte « Allah n'est pas obligé » est un texte donc qui a reçu quand même le prix Goncourt des lycéens, ça veut dire qu'il a touché. C'est un texte quand même très dur. Et ici, le trucage est très fort. J'ai envie de dire, il y a une langue qui est totalement inventée. Je lis simplement le début. « Je décide le titre définitif et complet de mon blablabla et « Allah n'est pas obligé d'être juste dans toutes ces choses ici-bas. Voici, je commence à compter mes salades. » Voilà, et il va raconter toute sa vie, comment il a fait partie des enfants soldats, comment il a coupé les bras, manche courte, manche longue, en fonction de la longueur qui était coupée, comment il a violé, tué, etc., etc. Donc il raconte l'effroyable, que l'on le trouve là-dedans. Par contre, dans Yacouba, il me semble que là, il y a un autre travail d'écriture, mais je dirais que ça serait trop poli, un petit peu comme un galet, pour toucher. C'est-à-dire que au début, c'est le petit enfant d'origine africaine qui vit en France. Pendant les vacances, il va en Afrique. Il rencontre l'oncle qui va l'emmener dans la forêt avec les cousins et la cousine pour subir l'initiation. Et ils savent que le risque, c'est qu'un garçon meurt et une fille meurt. C'est le prix à payer à la forêt. Voilà. Mais comme tout doit bien finir, il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui va organiser un enlèvement, et ça se termine en disant, il n'y a pas que des sauvages en Afrique, et on retourne en France. Et il me semble que là, le problème est escamoté, parce que justement, on veut faire quelque chose de trop propre. Voilà. Alors, dans ces écritures-là, il y en a divers. J'ai l'impression que, parfois, quand on veut truquer pour être au plus près de l'adolescent, soit on se trompe, doué pour le silence, mon maître ne ressemble à rien, etc. Et par moments, on touche. Alors, le problème qui va se poser ici, c'est, avec tous ces trucages, est-ce que les enfants ont la capacité de lire ces trucages? 3 minutes, c'est possible? Alors, je me suis fiée au... un travail qui avait été présenté dans les cahiers d'évaluation niveau 6e. Donc l'extrait, c'est Camara Ley, l'enfant noir. On donne un extrait et on voit donc l'enfant, donc c'est une autobiographie, hein, un adulte qui raconte sa vie enfant. Il raconte le passage où il est en train de jouer avec un serpent et le serpent est à deux doigts de le mordre. Les questions que l'on pose là-dessus, c'est on lui demande s'il s'agit de donner un titre, donc il choisit bien enfant imprudent, un enfant imprudent, c'est-à-dire que 65% des enfants ont compris le danger. On leur demande quel type de texte c'est, et plus loin, on leur demande est-ce que le serpent, enfin que fait le serpent? Et ici, la réponse attendue, donc on propose, il attaque l'enfant, il a peur, il s'enfuit, il se débat, il accepte le jeu de l'enfant. Et la réponse juste, c'est il accepte le jeu de l'enfant. C'est-à-dire que c'est ce qui est littéralement dans le texte, mais c'est nier la distance, justement, entre le jeu adulte et le jeu enfant. Tout se passe comme s'il n'y avait pas de distance. Et il me semble que la difficulté se situe là, véritablement. C'est-à-dire que ces écritures en jeu sont extrêmement sophistiquées dans la littérature jeunesse et que nous, en tant qu'enseignants de français, il faut essayer de travailler justement sur ces techniques de trucage, de montage pour qu'il puisse y avoir un enjeu identitaire. Donc je ne vais pas conclure plus longtemps là-dessus. Hein, donc simplement mettre l'accent sur la nécessité de travailler sur les trucages de l'écriture pour qu'il puisse y avoir des jeux de projection identitaire. Merci.
Bon, bien, merci.